Nyanga.
Séraphine Akizimana sur la mise en onde. Bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée de ce lundi 28 octobre 2019. Nous voici d'abord l'essentiel. Quatre journalistes et un chauffeur du groupe de Pressiwachu, Kropis, est toujours dans la prison centrale de Bubanza. Le procureur de la République à Bubanza les accuse de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Alors, Rokit s'était rendu à Musigati pour faire un reportage sur l'état sécuritaire et qui y prévalait. Une dizaine de personnes originaires de la zone de Muyira en commune Kanyosha dans la province de Bujumbura sont sous les verrous à la prison centrale de Mimba depuis ce dimanche. L'administrateur communal de Kanyosha indique qu'ils ont été arrêtés pour enquête sur l'attentat contre le chef de zone de Muyira dans la nuit du vendredi dernier. Au sud de la capitale économique de Bujumbura, les commerçants du marché de Kanyosha qui vaquent en plein air disent que leurs marchandises sont abîmées par des intempéries. D'où il demande l'ouverture du marché moderne récemment réhabilité. Et dans la chronique sportive de ce lundi, l'on vous parlera de la boxe, jeu qui oppose sur le ring deux individus. Voilà pour l'essentiel. Une dizaine de personnes qui ont été arrêtées pour enquête après que le chef de zone Muyira ait été blessé par balle vendredi de la semaine passée. Cela est dit par l'administrateur de la commune Kanyosha en province de Bujumbura, Jean Berkimas Munzerere, fait savoir que des enquêtes se poursuivent pour identifier les auteurs et les causes de ce crime. Il appelle la population au calme. Jean Berkimas Munzerere décrit d'abord les circonstances dans lesquelles cette autorité zonale a été fusillée. Suivez-le au téléphone par Placide Niumonguet.
C'était vendredi soir, il avait rendez-vous avec ses amis d'une association. Et après, ils se communiquaient sur le rendez-vous. Il a constaté que les unités dans son téléphone étaient épuisées. Et puis, il s'est déplacé de la maison vers l'endroit où il allait acheter les unités. Ce n'est qu'en retournant à la maison où il a été frappé par un mal intentionné qu'il avait attendu pour lui faire du mal. C'était à peu près de sa maison, à une vingtaine de mètres. À la grande surprise, il pensait que c'était des gens qui circulaient. À la grande surprise, il a été fusillé.
Justement, vous parlez d'une personne qui l'aurait peut-être aperçue. Est-ce que la personne aurait été identifiée, aurait été arrêtée, où se trouve-t-elle?
La personne, bon, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il a été arrêté. Ce qui a été fait, c'est que au moment où cet acte ignoble a été commis, quelques temps après, il a fallu que certaines personnes soient appréhendées pour des investigations. Peut-être cette personne qui a fait ça peut être parmi ces gens-là qui ont été appréhendés, mais les investigations continuent.
Des investigations en cours et combien de personnes qui auraient été arrêtées pour enquête?
Les enquêtes continuent. Les personnes qui ont été appréhendées, c'est autour de 11. Les enquêtes vont continuer. Les gens qui ont des notions, qui sont expérimentés, sont en train de mener des enquêtes et la vérité sera accouché au grand jour.
Oui, l'histoire de cette zone de Muyira nous montre que à peu près au moins 5 chefs de zone auraient subi le même sort. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce qui est arrivé vendredi serait toujours dans cette ligne de tuerie successive dans cette commune?
Bon, je ne dirais pas ça parce que les 5 chefs de zone qui ont été tués, c'était pendant la période en pleine crise. Aujourd'hui, la crise est terminée, le calme est là, sauf quelques gens mal intentionnés. Sinon, il n'y a pas de suite logique à ce qui a été fait.
C'était l'administrateur de la commune Kanyosha, Jean Berkmas Munzerere, joint au téléphone par Placide Niyo Mungere, page économie à présent. Plutôt, nous revenons sur l'incarcération des journalistes du groupe de presse Iwachu. 4 journalistes, donc, et leurs chauffeurs sont incarcérés à la prison centrale de Bubanza depuis l'après-midi de ce samedi. Ils sont accusés de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Les organisations internationales et Reporters sans frontières, Human Rights Watch, condamne ces arrestations et plaide pour leur libération. Christine Kamikazi, Agnès Ndiroubusa et Gide Harimana, Terence Mozenzi ainsi que leur chauffeur Adolphe Massabarakiza ont été arrêtés le 22 octobre courant alors qu'ils étaient en reportage sur l'insécurité qui prévalait en commune Musigati de la province de Bubanza. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme demande à la justice burundaise d'accélérer les enquêtes sur ces journalistes. Consolate Habimana reconnaît que la CNDH a été saisie pour son intervention. Elle salue le déroulement des procédures judiciaires relatives. On l'écoute.
La commission a été saisie officiellement, comme c'est dans son rôle, comme c'est dans ses tâches de tous les jours. Elle s'est dépêchée pour aller sur le lieu où ces journalistes sont déjà pour le moment. Donc, la commission a essayé de s'entretenir avec ces journalistes, mais aussi de s'entretenir avec les autorités qui a l'affaire en main, a essayé de dire à chacun, s'entretenir avec chacun, donc s'entretenir à chacun pour que le procès suive son cours normal. En ce qui concerne la CNDH, la CNDH doit vérifier que tout ce qui est en rapport avec la violation des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne l'arrestation, si elle a été arbitraire ou pas, en ce qui concerne la manière dont ces présumés sont traités. Et quand la CNDH s'est entretenue avec ces journalistes, il a constaté que l'arrestation n'a pas été du tout arbitraire. Non plus en ce qui concerne leur traitement, donc n'ont pas été ni torturés, ni violés. Et ils ont aussi le droit d'être assistés judiciellement, comme ils ont signalé à la CNDH qu'ils ont déjà un avocat qui les assiste. Donc maintenant, le dossier est entre les mains de la justice pour l'instruction. Et comme la CNDH s'est entretenue avec chacune des autorités qui sont concernées par ce dossier, la CNDH a la confiance totale que la procédure sera donc normale, sans violation d'aucun droit de chacun.
Est-ce qu'on ne va pas parler de la violation de la liberté d'expression au Burundi?
Dire qu'on peut parler de la violation des droits d'expression au Burundi, donc ça serait un peu aller plus loin, parce que chacun a sa façon et sa manière d'apprécier les choses, d'apprécier la situation. Seulement, la CNDH ne doit se borner que sur tout ce qui concerne la violation des droits de l'homme, et pas plus. Concernant le ministère de la Justice, elle doit faire son travail. Seulement, la commission suit de près l'instruction de ces dossiers. Et il est en contact avec les autorités concernées.
Aujourd'hui, que demande la CNDH?
La CNDH, comme tant d'autres cas, demande à l'autorité concernée, notamment le ministère de la Justice, de suivre le cours normal du dossier, essayer de respecter le cours normal du dossier, mais aussi demande au ministère public d'instruire ces dossiers, les dossiers de ces journalistes dans un délai raisonnable, tout en respectant la procédure.
C'était la vice-présidente de la CNDH, Madame Consolate Habimana. Il était au micro de Linibel Nibigir. Isanganiro. Page économie à présent. Certains commerçants du marché de la zone Kanyosha au sud de la capitale économique Bujumbura réclament l'ouverture de leur marché. En dehors de ce marché où ils exercent leur métier, ces derniers disent qu'ils travaillent à perte suite aux intempéries. Le représentant des commerçants demande à la mairie de réhabiliter ce marché. Le point avec Moïse Misago.
Là où ils exercent leurs activités en dehors de ce marché, ces commerçants disent qu'ils enregistrent des pertes énormes suite aux intempéries qui abîment leurs marchandises.
Et nous exerçons nos activités ici en dehors du marché, puisque les gens qui ont été obligés de construire notre marché ne l'ont pas fait. Nos activité se déroule mal, puisque quand il pleut, tous les clients ne viennent pas. Ils ont perdu debout, puisque l'eau coule dans tous les sens. Nos activités ne marchent pas. Et évidemment, nous subissons beaucoup de pertes.
Cependant, ils regrettent que même ceux qui ont déjà payé les frais de réhabilitation, leurs stands ne sont pas encore construits.
Ceux qui devaient construire ici pouvaient donner un exemple. Construire même 10 boutiques ou 20 boutiques, les autres commerçants qui n'avaient pas encore payé pouvaient payer puisqu'ils auraient vu que le marché est en train d'être construit. Au niveau de la mairie, nous demandons aux responsables des marchés de faire un effort pour que nous soyons comme les autres commerçants de la mairie de Bujumbura.
Certains de ces commerçants demandent à la mairie l'autorisation de construire ces stands eux-mêmes. Minani Gad, représentant des commerçants de ce marché de Kanyosha, demande à la mairie de finaliser les travaux de construction de ce marché, quitte à exiger aux commerçants les frais irrelatifs. Contacté à ce propos, le président de la commission en charge de réhabilitation des marchés à mairie de Bujumbura, Nguriki Ramadan, promet de réagir après la descente sur terrain.
Merci à Moïse Misago. Le Burundi passe de la 168e place en 2019 à la 166e place en 2020, selon le rapport de Doing Business du groupe de la Banque mondiale 2020. Dans cette 17e édition récemment sortie sur 190 économies ayant fait objet d'analyse, la Nouvelle-Zélande occupe la première place alors que la Somalie se classe dernière. Parmi les pays africains, le Togo a fortement progressé, le point avec Emery Kanyank.
Cette 17e édition du rapport de Doing Business du groupe de la Banque mondiale, sorti le 24 octobre courant, tient compte de 12 indicateurs dont la facilité des affaires, la création d'entreprises, l'obtention d'un permis de construire, le raccordement à l'électricité, l'obtention des prêts, le paiement des taxes et impôts. Ce rapport montre que sur 21 économies africaines en progression dans ce classement, le Togo vient en tête. Elle quitte la 137e position dans le rapport Doing Business 2019 pour occuper la 97e position dans le récent rapport 2020 avec 40 places gagnées. Côté Afrique de l'Est, l'Ouganda vient en tête. Elle quitte la 127e position dans le classement 2019 à la 116e position. Elle est suivie par le Kenya avec 5 places gagnées sur un an. Il passe de la 161e position à la 56e. En 3e position vient la Tanzanie quittant la 144e position à la 141e position avec un gain de 3 places. Le Burundi quitte la 168e place dans le rapport Doing Business 2019 à la 166e position dans le classement 2020 avec 2 places gagnées. Le Rwanda passe de la 29e place dans le classement 2019 à la 38e position dans le rapport 2020. Ce rapport fait selon les facilités à faire des affaires sur les 170 économie passée sous la loupe, classe la Nouvelle-Zélande en tête avec un score de 86.8, alors que la Somalie est placée en dernière position avec un score de 20 points.
Merci à Mireille Kanyang. Et actualité internationale avant de passer à la chronique sportive. Les évêques d'Amazonie en Amérique du Sud ont demandé au pape d'ouvrir la prêtrise aux hommes mariés pour pallier le manque des prêtres dans les zones les plus reculées de l'Amazonie. Selon les informations trouvées sur la Radio France Internationale, c'était dans un document final du synode sur l'Amazonie présenté ce samedi soir au Vatican. Après 3 semaines de travaux, les évêques et experts présents ont fait de nombreuses recommandations au pape François à commencer par la possibilité d'ordonner des hommes mariés. Le pape François a promis de mettre en place une commission qui va s'occuper de ce dossier.
Radio Isanganiro, chronique sport.
La boxe est un jeu qui se pratique de trois manières différentes sur le terrain de 6 mètres carrés. C'est l'explication du président de la Fédération burundaise de boxe en ce qui est du système d'arbitrage. Eric Ndayishimiye indique qu'un match de boxe est arbitré par un arbitre central en collaboration avec les autres se trouvant à l'extérieur qui ont des fonctions différentes. Les détails dans cette chronique sportive avec Charles Makote.
La boxe étrangère qui se pratique de trois manières différentes sur un terrain de 6 mètres carrés, explique Eric Ndayishimiye, président de la Fédération burundaise de boxe.
Par la boxe étrangère, je dirais codifiée, qui a ses règles pratiquées par des individus dans un enclos qu'on appelle ring, que l'adversaire cherche à toucher l'autre sans être touché, sur une cible, je dirais, autorisée. Parce que le coup de poing, il doit taper le coup avec la face antérieure de métacarpe, un peu au-dessus, pas toute la face. C'est un jeu un peu violent. Si on ne fait pas attention. Pour un boxeur qui est avisé, c'est normal, quand on est habitué, il n'y a pas de violence. Le terrain de boxe, c'est le ring. Le ring a 6 mètres sur 6 mètres. En dessous, on doit se donner 1 mètre pour installer le podium. Et après 1 mètre, et il y a les 4 cordes là qui relient les 4 coins dans lesquels le boxeur entre dedans pour combattre.
Un match de boxe peut être arbitré par un arbitre central en collaboration avec les autres qui suivent de près le combat de l'extérieur du terrain. Nous dit le président de la Fédération de boxe.
Le système d'arbitrage en boxe, c'est un système, je dirais, un peu rigoureux parce qu'il y a l'arbitre là qui est à l'intérieur, qui doit veiller sur la santé de tous les boxeurs qui sont dedans et qui doivent voir si réellement l'autre boxeur ne fait pas de fautes. Il y a aussi les juges autour du ring, 5 juges qui sont assis différemment et qui doivent veiller sur le règlement et faire appliquer le règlement en donnant les points. Quand les boxeurs terminent tous les 3 rounds, là on peut gagner par points, comme on peut gagner par ce qu'on appelle knockout. Quand on vous donne un coup et que vous tombez, vous ne parvenez pas à se relever, donc là on arrête le combat. Ou quand l'adversaire est tu lui donnes un coup, il saigne beaucoup. Alors là-bas, on arrête le combat et la victoire revient à celui qui a donné ce coup puissant.
La boxe étrangère qui a été pratiquée avant l'ère chrétienne, mais c'est le français Pierre Courbeté qui a contribué à l'évolution de cette discipline en l'intégrant dans les compétitions internationales des Jeux Olympiques, comme l'explique ici Eric Ndayishimiye.
Avant Jésus-Christ, à peu près 600 ans, c'est vraiment très lointain parce que là-bas, on utilisait les mains, on prenait les herbes, les cordes, on bandait les mains et après on se donnait les coups et il y a les autres qui viennent assister et qu'à la fin, on donne quelque chose à un gagnant. Mais au fur et à mesure, il y a l'Angleterre là qui s'est donné pour la naissance de la boxe aussi moderne. Partout, on disait que c'était un jeu violent, qu'il fallait arrêter, qu'il ne faut pas le faire. Et il y a les pouvoirs publics qui étaient totalement contre ce jeu. Et c'est par après qu'en France, on a pu moderniser ce sport. C'est Pierre Courbeté qui a commencé à inclure ce jeu dans les Jeux Olympiques.
Dans la prochaine chronique sportive, Eric Ndayishimiye nous parlera de l'état de lieu de la boxe au Burundi et les défis auxquels font face les boxeurs burundais.
C'est sur cette chronique sportive que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.